Je vais vous présenter un travail qui se situe à la limite supérieure de cette forêt d'il y a 6000 ans, donc sur le Haut-Vic de Sceaux, en vallée de Soulcem. J'ai intitulé ça « Fouiller en montagne ». Vous allez voir, on fait pas que des fouilles, en fait, mais c'était un peu un slogan. C'était pour dire, oui, il faut aussi fouiller en montagne, même si c'est relativement original, relativement nouveau. Du coup, d'ailleurs, on a des problèmes de méthodologie, parce que forcément, c'est pas quelque chose qu'on fait depuis des années. Les premiers ont commencé il y a 20 ans seulement, donc c'est une science qui est très jeune, donc on se cherche. Je vais essayer de vous expliquer pourquoi, en fait, on en a besoin. Alors, c'est une recherche que je mène dans le cadre de mon travail. Au départ, elle était financée par une association qui a beaucoup, beaucoup œuvré sur les auriques, qui est l'association Montagne et Patrimoine, avec la mairie d'Ozat et le conseil général. Et puis, parce que ça coûte quand même un petit peu cher pour une seule association, la mairie d'Ozat reprend aujourd'hui le flambeau, toujours en collaboration avec l'association et le conseil général. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on ne fait pas de recherche tout seul isolé. On travaille dans le cadre de l'OHM, hein, comme Vanessa et Jean-Paul vous ont présenté, donc l'Observatoire Homme-Milieu du Haut-Vic de Sceaux, hein, qui est éclectique et s'intéresse au milieu sur la longue durée. Et on travaille aussi dans un groupe de recherche qui est tout nouveau, c'est la première fois que ça se crée, qui s'appelle Départ, qui en fait est un groupe d'archéologues, ce qui rassemble tous les archéologues qui font des fouilles en montagne sur des auries, des cabanes pastorales, etc. Ça dépend comment on les appelle, un petit peu partout sur les Pyrénées. Le but, c'est de faire une base de données. On ne va pas être extensif, on ne va pas pouvoir être éclectique et cartographier tout le pastoralisme dans toutes les Pyrénées, mais on va pouvoir comparer des choses entre le Pays Basque, les Incantats, la Cerdagne, la Haute-Vallée d'Ossau, et forcément, on aura des résultats grâce à ces comparaisons. Alors donc, pour ceux, parce que je me suis dit que peut-être pas être trop nombriliste, vous saviez pas forcément où était le Haut-Vic de Sceaux, donc c'est à la frontière Andorre-Catalogne-France, sur le secteur du Point Rouge que je travaille. Et cette vallée est une vallée, alors je travaille sur la vallée de Soulcem, qui est une vallée nord-sud, à l'amont du barrage de Soulcem, et sur les estives, donc les terroirs pastoraux, qui sont au-delà de 1900 mètres d'altitude. En dessous, nous ne travaillons pas sur les grands plats, en tout cas pas pour l'instant. Il y a plein d'avantages. En fait, je ne voulais pas non plus travailler que sur le pastoralisme. Je voulais envisager la montagne dans sa globalité. Je suis historienne de formation. Donc, pourquoi Soulcem ? Parce que c'est aussi un lieu de passage important depuis longtemps. Des voies de communication vers le Payars, un peu à l'égard du port de Salo. Et on le sait d'ailleurs, il y a une église qui a été construite au Moyen-Âge. Et c'est assez classique. On a un collègue, Denis Mirouze, qui en a fouillé une sur l'accès du port de Salo, de trouver des églises comme ça, sur les passages vers le sud. C'est aussi un espace qui est très grand, qui contient énormément d'estives en une seule vallée, avec des versants nord, sud, mais surtout est-ouest, donc des versants relativement abrités. Et il faut bien le dire, il y a une piste pastorale, c'est-à-dire qu'il y a une piste sur laquelle on peut rouler. Donc on gagne énormément de temps sur toutes nos interventions parce qu'on marche moins. Hein, c'est la flemme aussi qui nous a fait choisir ce secteur. Alors auparavant, il y avait eu quand même quelque chose en plus. Et ça, c'était intéressant de travailler là justement parce qu'il y avait eu ça. L'association Montagne et Patrimoine a relevé un certain nombre de riz. Pas tous parce qu'ils n'étaient pas archéologues, mais ils ont fait des relevés extrêmement précis de beaucoup de bâtiments. Alors il y a les largeurs, les photos, etc. Et nous, on repart de là et on intègre leurs recherches, on les scanne, on les intègre aujourd'hui à ce qu'on fait, c'est-à-dire qu'en fait, on fait plus que repartir, ça fait partie d'une partie de nos recherches. Alors qu'est-ce qu'on a fait ? Mais en fait, on n'a pas fait que de l'archéologie, on a fait de l'histoire, de l'analyse des textes. J'ai un collègue qui s'appelle André Reynaud qui lit et transcrit toute la documentation consulaire des milliers de pages du Haut-Vic de Sceaux à partir du moment où elle apparaît, donc à partir du 16e, 17e jusqu'au début du 20e siècle. Et on a pu étudier quelque chose dont vous avez probablement entendu parler, par exemple, ce sont les lits et passeries. Les lits et passeries du Haut-Vic de Sceaux nous ont révélé qu'elles n'étaient pas du tout des accords comme on a pu trouver dans le reste des Pyrénées, mais plutôt des accords qui sont en fait imposés par la royauté et l'administration royale au moment seulement où la frontière se fixe, donc après le traité des Pyrénées au 17e, et absolument pas des accords pastoraux, au mieux des accords commerciaux qui vont aider les bourgeois du Vic de Sceaux à exporter ou à importer vers le Payars, parce que en fait les accords sont vers le Payars et pas vers l'Andorre. Bon, j'ai travaillé aussi sur la documentation médiévale, ça m'était facile, hein, je suis médiéviste. Et puis on s'est dit, il faut faire de l'ethnographie. C'est vrai que les gens qui, les dernières personnes qui ont vraiment utilisé ces auries, vous le savez, sont en train de disparaître. Donc deux collègues, Christiane Kirsch qui est décédée et Christiane Rondy, ont travaillé à enquêter auprès d'un personnage fantastique qui a passé une quinzaine d'années dans un auri et qui s'en rappelle, qui a écrit des cahiers auri que nous avons fouillés. Donc on a pu comparer sa parole à la réalité archéologique, et ça c'est super intéressant du point de vue méthodologie. Bon, évidemment, c'est de la mémoire orale, donc il faut le remettre en cause. Il manque la plupart des gens qui ont disparu, donc on a la version que d'une ou peu de personnes, hein. On le prend comme tel, mais ça complète nos études. Donc on a travaillé sur de la fouille. On a commencé par fouiller, classiquement, on est des archéologues, alors on a fouillé des auries, celui de Jean Lamy, donc, qui était situé un peu bas, dans lequel on a trouvé beaucoup de 20e siècle, du 19e, et dans lequel on a été très étonnés de trouver, en fait, des céramiques plus anciennes, à commencer par des choses de la transition de l'âge du fer et de l'âge du bronze, donc si vous voulez, moins 700, moins 800, et des céramiques médiévales qui sont du 9e, 12e siècle. Donc on s'est rendu compte, et on s'y attendait, qu'il y avait une succession, en fait, hein, de bâtiments sur le site. Notre but aussi était de voir si on pouvait dater les premiers auries en pierre. On sait très bien qu'ils n'ont pas toujours été en pierre, qu'il y a pu y avoir des cabanes en bois ou alors des choses mixtes, hein, avec un petit peu de pierre et puis du bois au-dessus. On sait très bien aussi que la pierre montre l'appropriation de la cabane et que les gens ne se sont appropriés la cabane qu'après le Moyen-Âge, les familles d'ailleurs, hein, pas les personnes, hein, sur des territoires qui étaient et qui restent aujourd'hui domaniaux, c'est-à-dire qui appartenaient au comte de Foix, puis au roi, puis au président de la République, donc à l'ONF aujourd'hui. Alors, c'est par la fouille de ces auries qu'on a bien pu montrer qu'effectivement, dès qu'on passe en dessous du XVIe ou du XVIIe siècle, et pour l'instant, je ne peux pas être plus précise, on sort des cabanes en pierre et on se retrouve avec des structures en bois où il y a très très peu de pierre. On en a fouillé un second qui a donné les mêmes résultats avec de la céramique du XVIIe siècle. Vous l'avez au début là, hein, il est quasiment sous l'herbe. J'ai fait le plan, il y a un enclos et un auri qui en fait était un cabanat. Évidemment, vous avez des fonctions différentes, les enclos à traire, les sous à cochons, etc., etc. Et puis, on s'est dit qu'il fallait qu'on s'intéresse à chercher aussi les choses les plus anciennes possibles. Pas facile parce qu'elles ont forcément disparu. On a, dans ce cas, été attiré par les abris sous roche. Dans les abris sous roche, forcément, c'est facile d'habiter. Forcément, si vous arrivez en premier, vous commencez à entrer dans les abris sous roche. On a fouillé celui-là, qui est fantastique. Vous avez vu le bloc, il est cassé en deux. Hein. Au devant, il y avait du bâti, des murs. Alors, effectivement, on a trouvé du 20e. On a trouvé de la fin 16e siècle. Et dès qu'on passe sous les murs, on a un sol donc, de la fin 16e siècle qui est associé au mur que vous avez en haut, ici, vous voyez, construit de dalles. Et ensuite, on a des sols qui sont plus que charbonneux et qui posent le problème. Mais le problème des auries, c'est très différent d'un château. Un château, vous travaillez sur des centaines de milliers d'objets. Dans des auries, quand vous trouvez trois tessons, c'est une découverte exceptionnelle. Donc, on a beaucoup de problèmes pour dater les couches. Du coup, on s'est mis à les dater grâce aux tessons. Là, vous avez des tessons qui sont 9e, 12e siècle, à nouveau, même datation que ceux d'en bas. Mais on s'est mis aussi à faire des séries de datation radiocarbone, sachant qu'évidemment, vous datez le charbon, hein, la mort du charbon. C'est pas forcément exactement la datation du sol. Il faut garder un petit peu de recul. Et sur cette aurie-là, on a trouvé, sur les sols les plus anciens, quelque chose qui nous a beaucoup étonnés. Donc, ça a plus de 6000 ans. C'est du néolithique ancien. Il faut savoir qu'on pensait le pastoralisme débutant plutôt au néolithique récent. Ce n'est pas sûr que ce soit des pastoraux qu'on ait trouvé là. Hein. Ça peut être des chasseurs, hein, qui habitent là. Je n'ai aucune preuve de leur activité. Mais en tout cas, on a trouvé des occurrences anciennes qui, en fait, correspondent à ce que Didier Gallo est en train de trouver sur un étang qui n'est pas très loin. Donc, ce sont peut-être des pasteurs. Et dernière chose, certains d'entre vous connaissent les ardoises gravées. Et bien, même dans les auries, on trouve des tables de jeux gravées. Celle-là est du XVIe siècle. Alors, c'était étonnant parce que, pour l'instant, on n'en avait trouvé que dans le château de Montréal-de-Sault. On a fouillé un autre abri sous roche qui avait un mur, regardez le plan, qui part dans la pente, avec une petite terrasse dessous. On s'est dit, ça va nous sortir du pastoralisme, ça ne peut être qu'un poste de garde. Puisque le mur part comme ça et protège, il est juste en face de l'accès vers le Paillars, pour tout l'école, le port de Boué, hein, pour ceux qui connaissent, il est en face, en fait, hein, dans la vallée. Je vous ai mis où il était sur la photo là-haut. Et là, pareil, alors aucun mobilier, plusieurs couches, les datations les plus anciennes ne correspondent pas à la surveillance de la frontière par des militaires français, puisqu'en fait, on a des datations qui remontent aux alentours de l'an 1000 sur cet abri. Donc on a probablement une superposition, mais c'était aussi pour nous l'occasion de faire autre chose que du pastoralisme et de montrer que la vallée servait et avait servi à autre chose. Enfin, on a changé complètement notre fusil d'épaule. Vous voyez bien, quand on fouille quelques oris, ça prend énormément de temps et on a des informations, certes, mais elles sont monographiques. On est capable de dire ici, au Bareil, qu'il y a quelqu'un qui est venu il y a 6000 ans. C'est finalement pas ce qui nous intéresse. Notre but, c'est d'étudier le peuplement, le pastoralisme dans la longue durée. Donc, on est parti à refaire l'inventaire de Montagne et Patrimoine, c'est-à-dire que nous, on inventorie tout, même les microformes, les choses un peu écroulées qu'on voit à peine. On a travaillé cette année, alors c'est sur 2 ans, j'ai travaillé cette année sur, là où vous avez les cercles, hein. On travaillera sur les autres estives l'an prochain. Et en fait, on fait ce qu'on appelle un SIG, c'est un système d'information géographique, c'est tout simple. On se retrouve avec des centaines de structures qu'on a topographiées. Il faut bien les mettre dans quelque chose, on les met dans une base de données si on veut comparer. Et puis si on veut comparer avec les autres qui sont de l'autre côté, hein, en Espagne, il faut bien qu'on les mette dans une base de données, on ne peut pas garder ça sur des fiches. Donc on réalise une base de données en premier. Et ensuite, ces structures, vous êtes d'accord avec moi, elles ont quand même un rapport important avec la géographie, l'espace, l'endroit où elles sont, et elles sont réparties dans l'espace. C'est pas comme quand on fouille un château, qui est quand même un espace souvent assez réduit. Donc, on les repositionne sur des cartes. On peut mettre les cartes par couche, soit on met ce que vous ont montré mes collègues, un modèle numérique de terrain avec des courbes de niveau, soit on met l'exemple que je vous ai mis ici, ce sont des photos, orthophotos de l'IGN, hein, si vous voulez, des photos aériennes. Par-dessus, on associe les plans, ce sont les petits carrés que vous devinez, ben, les plans qu'on a fait sur le site. Et puis, on associe à ces photos les bases de données, c'est-à-dire qu'on peut faire des requêtes, des interrogations spatiales, ou savoir quels sont tous les bâtiments qui font plus de 2 mètres, tous ceux qui sont des enclos, tous ceux qui sont des couloirs de traite, etc. Et en même temps, dans chaque groupe d'oris, on carotte. On fait de petits carottages où on récupère tous les charbons en stratigraphie qu'on envoie aux datations pour avoir un maximum de datations. Et finalement, on va avoir une vision un petit peu plus à l'échelle de la vallée et plus une vision monographique à l'échelle de la fouille et de l'ori. Voilà ce qu'on est en train de construire.